C'est le début, ce lundi, d'une balade que, pour notre plus grande joie et la vôtre peut-être, Les Nouveaux Chemins vous proposent au cœur d'une des essais de montagne. Mais ce lundi, tout de suite et maintenant, c'est en compagnie de Jean-Yves Pouilloux qui enseigne la littérature à l'université de Pau, d'où il nous parle en duplex, et qui est l'auteur du Découverte Gallimard sur Montaigne, que nous allons parler pendant 50 minutes du chapitre intitulé « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Nous troublons la vie par le souci de la mort, et la mort par le souci de la vie. L'une nous cause du regret, l'autre nous effraie. Ce n'est pas contre la mort que nous nous préparons, c'est une chose trop momentanée. Un quart d'heure de souffrance passive, sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers. À dire vrai, nous nous préparons contre les préparations à la mort. La philosophie nous ordonne d'avoir la mort toujours présente devant les yeux, de la prévoir et de la considérer avant le temps où elle viendra, et elle nous donne ensuite les règles et les précautions pour pouvoir pourvoir à ce que cette prévoyance et cette pensée ne nous blessent pas. Ainsi font les médecins qui nous jettent dans les maladies afin qu'ils aient des sujets sur lesquels ils puissent employer leurs drogues et exercer leur art. Si nous n'avons pas su vivre, c'est une injustice de nous apprendre à mourir et de donner à la fin une forme différente de son tout. Si nous avons su vivre avec constance et tranquillité, nous saurons mourir de même. Les philosophes se vanteront à ce sujet tant qu'il leur plaira. Mais il me semble que la mort est bien le bout, non pas pour autant le but de la vie. C'est sa fin, son extrémité, non pas pour autant son objet. Un grand bonjour, Jean-Yves Pouilloux.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture.
Merci.
Et au nouveau chemin de la connaissance. Alors, les mauvais esprits diront qu'avec ce chapitre sur la mort, le chapitre 20 du livre 1 des essais, dont n'est pas extrait d'ailleurs le texte que je viens de lire, qui lui se trouve dans le livre 3. Donc, qu'en parlant de la mort, ou qu'en partant de la mort, nous commençons par la fin. Mais c'est une erreur, puisque parler de la mort avec Montaigne, ça n'est pas tant parler de la fin de la vie, que de la vie tout entière, qui, d'ailleurs c'est l'évidence, est indémêlablement tissée de mort.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est un thème déjà ancien, c'est pas une invention de Montaigne. C'est quelque chose qu'on trouve déjà dans Lucrèce. Entre parenthèses, Lucrèce sert à Montaigne pour clore le chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », puisque les cinq dernières pages de ce chapitre sont une sorte de paraphrase de Lucrèce lui-même.
De la fameuse lettre de Lucrèce à Ménécée.
Du De Natura Rerum, carrément, et qui est repris de façon assez suivie. Lucrèce finit... Pardonnez-moi, c'est juste une petite note. Lucrèce finit le livre 3 du De Natura Rerum avec une sorte d'étonnante prosopopée, comme on dit, c'est-à-dire
Il
fait parler la nature qui s'adresse aux hommes qui craignent la mort. Et la nature leur explique pourquoi ils n'ont pas à craindre la mort, parce que chaque minute est à la fois le commencement et la fin, et que toute existence est concentrée dans une seule seconde de vie.
Alors justement, chaque minute est le commencement et la fin. Cette phrase-là n'est pas anodine. Hein. Il y a un mot pour qualifier d'ailleurs ce caractère de chaque instant d'être le début et une fin, et la fin en même temps. C'est un néologisme de Jean Kelevitch. Il parle de prime ultime à propos de chaque minute. Façon peut-être de dire que chaque instant offre la possibilité à tout homme d'être vécu comme le dernier, ce qui est la recette de l'hédonisme en général, ou bien d'être vécu comme le premier. De quel côté Montaigne se situe-t-il, selon vous ?
C'est compliqué, parce que ni l'un ni l'autre, je dirais. Parce qu'il me semble que, il suit les préceptes classiques de la philosophie morale, c'est-à-dire vivez chaque instant comme si c'était votre dernier moment, puisque c'est ce dernier moment qui va donner sa valeur, son appréciation à l'existence tout entière. Mais d'un autre côté, Montaigne dit, en partie dans ce chapitre, mais beaucoup plus dans le dernier chapitre, dont Frédéric Brami vous parlera ou parlera avec vous, que chaque instant, en fait, est une naissance. et qu'un homme qui vit à propos, qui vit dans le moment, dans le temps dans lequel il existe, est un homme pour qui chaque instant est une découverte nouvelle.
Notre glorieux chef-d'œuvre, notre grand chef-d'œuvre, je ne sais plus exactement, c'est...
De vivre à propos.
C'est de vivre à propos, dit Montaigne.
Tout
ça, c'est le chapitre 13 du livre 3
Tout
des essais, avec lequel nous terminerons cette semaine, effectivement, en compagnie de Frédéric Brahmi. Alors, dans le chapitre sur la mort, donc, que philosopher, c'est apprendre à mourir, ce chapitre est le chapitre 20. Juste avant ce chapitre, il y a un tout petit chapitre qui s'appelle « Qu'il ne faut juger de notre bonheur qu'après la mort », et dans lequel Montaigne dit quelque chose dont vous me disiez d'ailleurs hors antenne que c'était cruellement vrai, cruellement véridique, hein, qui dit « On ne peut juger du bonheur d'un homme qu'au terme de qu'après sa dernière minute. Il faut savoir si un homme est mort inquiet ou serein pour savoir s'il a été heureux dans le temps de la vie. »
Oui, tout à fait. Tout à fait. Montaigne, c'est en même temps une... Enfin, Montaigne ne propose pas de thèse. Montaigne, à chaque fois, propose d'ouvrir une réflexion. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Et au lieu de dire, voilà, les choses sont de telle ou telle manière, il se demande à chaque fois si les choses sont plutôt d'un côté ou plutôt d'un autre, ou plutôt d'un troisième auquel on n'aurait pas pensé avant. Et au lieu de dire « on ne peut juger, il ne faut pas juger d'un homme avant sa dernière heure », il essaie de comprendre comment comprendre cette proposition, comment la faire travailler pour l'existence humaine.
Effectivement, comment faire travailler pour l'existence humaine le sentiment qu'il ne suffit pas de thésauriser, hein, de capitaliser tout le bonheur qu'on peut accumuler dans la vie pour mourir heureux ou pour considérer qu'on a eu une vie heureuse, mais qu'en somme notre bonheur dépend presque de notre dernier geste. Est-ce que ça n'est pas tout simplement la conséquence d'un philosophe du présent ?
C'est tout à fait ça. Il écrit, c'est dans le chapitre que vous venez d'évoquer, dans le chapitre 19, donc, que le jour de la mort est le maître jour, c'est le jour juge de tous les autres.
C'est le maître jour, c'est le jour juge. C'est le jour, dit un ancien, qui doit juger de toutes mes années passées.
Exactement.
Je remets à la mort l'épreuve du fruit de mes études.
Exactement.
Nous verrons alors si mes belles paroles me partent de la bouche
ou
du cœur.
Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la sanction, l'heure de vérité, comme on dit. Montaigne reprend des lieux communs, des façons tout à fait habituelles de parler, et il les réanime en leur insufflant une intelligence qu'elles ont perdue par l'usage. Et dans ce cas, je crois que c'est tout à fait clair, c'est une parole qui s'adresse à lui-même. Nous verrons si je remets à la mort, nous verrons si mes discours me partent de la bouche, c'est-à-dire... Il se prête à l'expérience, à l'épreuve, on peut dire.
Voilà qui en dit long également. On fait une toute petite parenthèse là-dessus. On va parler de la mort, hein, de toute façon. Mais une toute petite parenthèse quand même sur la méthode de Montaigne. Montaigne se prend lui-même comme objet. Montaigne ne parle que de lui. Montaigne est à lui-même son propre objet d'étude. Il n'en connaît pas d'autre. En un sens, il a l'honnêteté d'admettre qu'il n'en connaît pas d'autre, que ses opinions partent de lui. Il se sait déterminé à penser comme il le fait. Enfin, il se prend lui-même comme objet. Et en même temps, il ne cesse de truffer ses essais de citations et de phrases qui ne sont pas de lui. Paradoxe qu'on retrouvera par exemple avec le mémorial de Pascal, qui est le texte auquel Pascal tenait le plus et dont aucune phrase n'était pourtant de lui. Comment expliquer ce paradoxe? Comment un penseur fait-il pour ne parler que de lui en citant constamment les autres?
Je ne sais pas si vous avez rencontré dans votre existence des gens qui sont capables d'avoir une parole originale, purement originelle. Et qui,
en général, ceux qui pensent qu'ils l'ont ont une parole ordinaire, oui.
Exactement. C'est-à-dire que nous avons subi culturellement, par l'éducation, par les lectures, par toutes les formulations qui sont autour de nous, un ensemble de pensées qui se sont petit à petit fait nôtres, plus ou moins nôtres d'ailleurs, que nous avons plus ou moins adoptées, qui nous ont plu ou même rebutées, parce que celles qui nous ont rebutées nous ont façonnées aussi. Et ces paroles, ces thèmes, ces idées, ces représentations sont devenues nous-mêmes. Autrement dit, il est très difficile de démêler ce qui est aux autres et ce qui est à nous. C'est le premier point. Le deuxième élément qui est tout à fait important, je crois, c'est que cet ensemble de lectures qui aide la pensée à se former, on n'arrive pas à penser tout seul, je crois, on arrive à penser avec ou contre, plus souvent contre qu'avec d'ailleurs, d'après mon expérience personnelle, mais ces pensées des autres qui nous ont aidés à nous former nous-mêmes une manière d'être, une manière de penser, ça n'est pas du tout importé de l'étranger en soi, c'est montrer comment soi-même nous sommes faits de morceaux divers qui sont composites en réalité.
Il dit notre moi, hein, ce n'est que pièce rapportée.
Exactement.
Nous sommes faits de lopin,
dit-il. Nous sommes faits de lopin, nous sommes faits de petits morceaux qui, par l'expérience, petit à petit, se sont entassés finalement. Un peu au hasard des lectures, au hasard des rencontres.
Encore un point quand même plus général sur Montaigne, avant d'en revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, Jean-Yves Pouilloux. Est-ce que finalement le livre qui ressemble le plus aux essais, ça n'est pas La Recherche du Temps Perdu ? Non seulement parce que d'ailleurs Montaigne, comme Proust à la fin de leur livre, hein, tous les deux emploient la métaphore d'homme juché sur des échasses qui essaie d'enjamber le temps, mais aussi peut-être justement parce qu'ils font l'un et l'autre l'expérience de la préservation en eux-mêmes, d'une altérité qu'ils ne viendraient pas souiller de leurs opinions, de leurs certitudes, de leurs jugements. Ils se vivent peut-être l'un et l'autre comme le réceptacle de paroles étrangères.
Je crois qu'ils ont des manières extrêmement différentes. Enfin, j'apprécie beaucoup, ce sont deux des auteurs que je préfère dans le panthéon de la littérature française.
Vous avez raison.
Mais je crois qu'ils ont des manières extrêmement différentes l'un et l'autre de réagir à ce point. Proust a ressenti avec souffrance et avec violence l'empreinte des autres en lui-même. Et je crois qu'il a essayé, par exemple en rédigeant des pastiches, d'exorciser, si on peut dire, l'influence d'une parole étrangère sur la sienne. Ça nécessite un courage qui est tout à fait extraordinaire pour Proust. Proust a commencé à écrire un roman à la troisième personne, Jean Santeuil, qui n'a jamais publié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage qu'il faut pour mettre de côté un roman qui fait un volume pléiade, c'est-à-dire 1000 et quelques pages, et dire non, ça n'est pas ça, et recommencer.
Oui, enfin, de la même façon que chez Montaigne, hein, tous les jours de l'existence ne sont rien au regard de la dernière minute de la vie. Peut-être les 1000 pages qui précèdent le début de La Recherche du Temps Perdu servaient-elles de travail préparatoire chez Proust
À la différence près, si vous permettez, c'est que Montaigne les a gardées, ces pages préparatoires. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait singulier dans Montaigne, c'est qu'il a conservé le premier essai, la première tentative, la première ébauche, et qu'il n'a cessé pendant toute sa vie
de l'amender. Amender,
je ne sais pas si il accepterait le terme, parce qu'il dit « moi tantôt et moi à cette heure sommes bien deux, mais quand meilleur je ne saurais le dire ». C'est-à-dire que ce n'est pas du tout sûr que ça aille vers l'amendement, dit Montaigne, de lui-même, mais en tout cas de le nourrir d'une réflexion supplémentaire.
Revenons-en à la mort. Hein. Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive, dit Montaigne, donc au chapitre 20 du livre 1 des essais. Je voudrais qu'on entende Michel Piccoli, qui a enregistré une partie des essais. Donc c'est Michel Piccoli qui va nous lire maintenant un petit extrait de ce chapitre 20, dans lequel Montaigne énumère les différentes façons de mourir. Je voudrais avoir votre sentiment sur cette énumération finalement assez joyeuse, une forme de joie tragique chez Montaigne. Écoutez.
Combien à la mort de façons de surprise. Le danger constant de chaque heure, jamais personne ne le prévoit assez. Je laisse à part les fièvres et les pleurésies. Qui eût jamais pensé qu'un duc de Bretagne dût être étouffé par la foule comme fut celui-là à l'entrée du pape Clément, mon voisin, à Lyon? L'autre mourut d'un grain de raisin, un empereur de l'égratignure d'un peigne, et Caius Julius, médecin graissant les yeux d'un patient, voilà la mort qui clôt les siens. Et s'il m'y faut mêler un mien frère, le capitaine Martin, âgé de 23 ans, qui avait déjà fait assez bonne preuve de sa valeur, jouant à la paume, reçut un coup de la balle qui l'assomma un peu au-dessus de l'oreille droite, sans aucune apparence de contusion ni de blessure, il ne s'en assit ni reposa, mais 5 ou 6 heures après, il mourut d'une apoplexie que ce coup lui causa. Ces exemples si fréquents et si ordinaires, nous passant devant les yeux, comme est-il possible qu'on se puisse défaire de la pensée de la mort, et qu'à chaque instant, il ne nous semble qu'elle ne nous tienne au collet.
Thank you.
quelques mesures de Six Feet Under pour commenter ce texte de Montaigne. Six Feet Under, la meilleure série du monde, peut-être de tous les temps, qui se termine, ou qui commence toujours. D'ailleurs, chaque épisode commence par la mort de quelqu'un. Évidemment, toutes les morts sont absurdes. C'est l'un des enseignements de cette série. Alors, Jean-Yves Pouilloux, qui est avec nous aujourd'hui pour entamer cette semaine sur Montaigne dans les nouveaux chemins de la connaissance. Jean-Yves Pouilloux, le chapitre de Montaigne, hein, il s'inspire de Sénèque, manifestement, et de La brièveté de la vie. Le chapitre s'intitule « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », mais comment apprendre à mourir si, comme l'enseigne Montaigne au chapitre d'avant et comme il ne cesse par ailleurs de le dire, seul compte la dernière minute? Comment se prépare-t-on à mourir si finalement c'est au regard de la dernière minute qu'on sait si une vie est réussie?
Mais c'est le paradoxe de la philosophie morale depuis l'Antiquité. Il est en effet tout à fait évident que le titre de ce chapitre est emprunté à Cicéron, à un passage des Tusculanes, dans lequel Cicéron reprend la tradition ou une certaine version de la tradition platonicienne, et en particulier de la préparation à la mort de Socrate, et en particulier les dernières pages du Phédon.
Du Phédon, absolument. Dans lequel Socrate explique que toute la philosophie consiste à détacher l'âme du corps, et que ce faisant, l'exercice philosophique est une préparation à la mort, qui est l'achèvement, le point culminant de cette entreprise.
Il dit pas tout à fait ça, mais enfin bon, ça ressemble en effet. Mais ce qu'il dit, ce qui me paraît très intéressant, c'est que dans Platon, dans le texte de Platon, Socrate n'affirme pas que l'âme est immortelle. Socrate maintient que c'est une hypothèse qui est consolante. Ce qui n'est pas du tout pareil que de dire l'âme est immortelle. Et je crois que l'interprétation...
Il parle d'un beau risque.
C'est ça. Mm-hmm. C'est très important de dire c'est un beau risque et non pas...
Parce qu'il meurt sans savoir, en fait.
Ouais, voilà. Ça, c'est, vous l'avez dit très justement, ça n'est pas une thèse, c'est une hypothèse. C'est pas du tout pareil. Et effectivement, c'est consolant. C'est consolant d'imaginer que l'âme va survivre et que... etc., etc. Et que... on sera jugé après, ou l'âme sera jugée après, en fonction du bien et du mal qu'elle aura accompli pendant son existence. Mais ce qui me frappe, c'est que cette hypothèse que Socrate énonce, et qui lui permet, lui, de partir, si je peux dire, heureux, pas malheureux en tout cas, et en tout cas serein, ça c'est sûr, est une hypothèse qui a été transformée en thèse par la tradition disons chrétienne, pour aller vite, la tradition qui a dit, ben voilà, il y a une âme est immortelle, il y a une vie après la mort, nous vivons dans une vallée de larmes, mais après nous serons consolés, etc. Et on entend bien que c'est quelque chose qui a rapport avec la préparation. L'une des préparations à la mort consiste à inculquer, si je peux dire, par l'éducation, que le malheur de la vie présente sera compensé par le bonheur d'une vie future. Il me semble que c'est totalement absent de l'horizon de Montaigne, totalement. Et si vous reprenez le début du chapitre, que philosopher, c'est apprendre à mourir, Montaigne ne prend pas à son compte ce que dit Cicéron. Il dit, Cicéron dit que philosopher, ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. Et puis, petit à petit, en 10 lignes, 15 lignes, on dérive d'une façon extraordinairement pernicieuse pour les thèses spiritualistes et morales, qui dit que le seul bien de la vie, c'est la volupté.
Oui, c'est le plaisir. Oui.
C'est le plaisir, ce qui est quand même tout à fait scandaleux.
Alors, précisément, est-ce que, à vous entendre, il ne s'agirait pas d'inverser finalement les termes de la proposition stoïcienne selon laquelle philosopher, c'est apprendre à mourir, et dire que tout simplement, mourir, c'est apprendre à philosopher, prendre acte de l'éminence de la mort et du fait que l'immortalité de l'âme n'est jamais qu'une hypothèse réconfortante et donc à laquelle il faut croire, c'est-à-dire dont on peut douter. Qu'en somme, mourir, avoir la conscience claire de sa mort, c'est cela le départ, le commencement de la philosophie.
Je crois que c'est extrêmement exact. Je crois que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et je crois que c'est ça que Montaigne pratique en réalité dans ce chapitre, qui me semble avoir été interprété très souvent, trop souvent, je crois, comme un appui aux thèses, je disais spiritualistes pour faire court. Hypothèse sur l'immortalité de l'âme. Les deux philosophes, parce qu'ils sont tous les deux philosophes, dont Montaigne s'inspire à l'intérieur de ce chapitre, pour l'essentiel, ce sont Sénèque et Lucrèce. Et Lucrèce est un philosophe, enfin c'est un poète bien sûr, mais c'est aussi un philosophe qui est un disciple d'Épicure. Et Épicure ne croit pas à l'immortalité de l'âme.
Non, il ne croit pas à l'immortalité de l'âme, et il est également celui qui enseigne que tous les gémissements que l'on peut formuler du temps de la vie en pensant justement à la mort ou à notre cadavre témoignent en fait d'une façon d'esquiver encore la pensée de la mort, puisque c'est considéré que d'une certaine manière, on est encore vivant dans ce cadavre qui est dévoré par les vers.
Exactement. Et c'est quelque chose que, bon, Lucrèce le reprend, et effectivement, fait des vers tout à fait magnifiques, mais c'est une pensée qui...
Les vers ici, c'est la poésie, hein.
Exactement, oui. Pardon.
Allez-y.
C'est drôle comment on se laisse avoir par les homophonies. C'est une pensée qui est extrêmement difficile à affronter, mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que du moment même où on l'a affrontée, un certain nombre d'angoisses, d'anxiétés, etc., vis-à-vis de la mort, sont, si je peux dire, envoyées dans un placard des choses imaginaires, des choses qui font peur parce qu'on les pense et non pas parce qu'elles sont.
C'est ici qu'intervient. D'ailleurs, c'est une question qu'on posait la semaine dernière à propos des stoïciens, hein, sur le rapport entre ce qui arrive et la représentation qu'on en a. Schéma qu'on pourrait appliquer à la question de la mort. Et là, Montaigne reste authentiquement stoïcien. Mais alors, la question qui se pose derrière ce que vous dites, Jean-Yves Pouilloux, c'est que, du coup, quelle est la meilleure méthode, en somme? Est-ce que la meilleure méthode, c'est de se divertir, ou est-ce que la meilleure méthode, c'est d'avoir constamment la mort sous les yeux?
Mais dans le chapitre, Montaigne dit quand même à plusieurs reprises que c'est d'avoir constamment la mort sous les yeux. Il dit même que quand il était jeune, quand il était en pleine activité, même amoureuse, dans les fêtes, il était souvent, si je peux dire, pensif à l'idée de la mort, au moment même, au milieu même des plaisirs. Et il évoque, bien sûr, la coutume des Égyptiens de présenter une momie à l'intérieur au milieu des festins.
Voilà, un cadavre au milieu du plat. Alors, on va entendre, bah tiens, justement, toujours lu par Michel Piccoli, un extrait dont Blaise Pascal s'inspire, évidemment, pour formuler plus précisément ce qu'il appellera le divertissement. Écoutez.
Les hommes vont et viennent, ils trottent, ils dansent. De mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais aussi quand elle arrive, ou à eux, ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant à l'improviste, quel tourment, quel cri, quelle rage, quel désespoir les accable. Vites-vous jamais rien si rabaissé, si changé, si confus? Il y faut pourvoir de meilleures heures. Et cette nonchalance bestiale, quand elle pourrait loger en la tête d'un homme d'entendement, ce que je trouve entièrement impossible, nous vend trop cher ces denrées. Si c'était ennemi qui se peut éviter, je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise, mais puisqu'il ne se peut, puisqu'il vous attrape fuyant et poltron aussi bien qu'honnête homme, apprenons à le soutenir de pied ferme.
Ôtons-lui son étrangeté, fréquentons-la, et accoutumons-nous à elle. N'ayons rien aussi souvent dans la tête que la mort. À tous instants, représentons-la à notre imagination et avec tous ses visages. Au faux pas d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle, ressassons soudain, eh bien, quand ce serait la mort elle-même. Et là-dessus, raidissons-nous et faisons effort sur nous-mêmes. au milieu des fêtes et de la joie, ayons toujours le refrain que constitue le souvenir de notre condition, et ne nous laissons pas emporter si fort vers le plaisir sans que repassent parfois en notre mémoire les multiples façons dont notre allégresse est en butte à la mort et les multiples prises dont celle-ci la menace. Jean-Yves Pouilloux est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à Montaigne, aux essais de Montaigne. C'est de la mort, pour commencer, que nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire principalement des chapitres 19 et 20 du livre 1 des essais. On pourrait également mentionner le chapitre 12 du livre 3 par lequel nous avons commencé cette émission. Jean-Yves Pouilloux, quand Montaigne parle du faux pas d'un cheval, il sait exactement de quoi il parle, n'est-ce pas ?
Oui, je ne sais pas s'il a écrit cette phrase avant ou après son accident, mais en tout cas...
Il faut revenir pour l'auditeur qui n'a pas en tête toute la biographie de Montaigne.
Je raconte très brièvement, c'est dans le chapitre 6 du livre 2 des essais, qui s'appelle « De l'exercitation », c'est-à-dire un terme très difficile à traduire en français moderne, je dirais de l'expérience finalement, hein, de l'entraînement à l'expérience. Montaigne raconte comment il lui est arrivé, alors qu'il se promenait à cheval autour de chez lui, d'être renversé par un de ses hommes de maison qui était sur un gros cheval et qui l'a vraiment fait basculer et tomber à terre de telle sorte qu'il s'est évanoui et que quand il est revenu à lui, il a compris qu'on l'avait donné pour mort. C'est-à-dire qu'il était resté 2 heures ou 3 heures ou davantage...
Dans le coma.
Dans le coma. On me dressa sur mes pieds, je rendis un plein seau de bouillon de sang pur, et plusieurs fois par le chemin, il m'en fallut faire de même. Et il raconte, bien sûr, il n'est pas mort. Donc il ne peut pas dire qu'il a fait l'expérience de la mort, mais il a fait une expérience qui, lui semble-t-il, est très proche de celle-ci. De celle de la mort.
C'est intéressant d'ailleurs parce que Rousseau finalement s'inspirera de ce passage pour raconter ça. Lui, il sera renversé par un chien, chacun son truc. Oui. Mais finalement, c'est la même expérience.
Exactement la même. Hein,
dans les promenades, dans les rêveries du promeneur solitaire.
Tout à fait, c'est la deuxième. Mais ce qui me paraît très saillant dans l'histoire que Montaigne raconte, c'est que Rousseau ne raconte pas qu'il ait vomi du sang à ce point. Montaigne dit...
Rousseau dit qu'il a vomi du sang par la tête.
C'est ça.
Que la tête s'est ouverte et que le sang s'est répandu comme les étoiles du ciel.
Mais ce qui me paraît tout à fait étonnant, mais c'est très extatique dans la façon dont Rousseau reprend pied dans l'existence, il me semble que Montaigne reprend pied, si je peux dire, d'une manière beaucoup plus, je mettrai entre guillemets, réaliste. Je fermais les yeux pour aider, ce me semblait, à pousser ce qui me restait de vie hors. Et prenait plaisir à m'alanguir et à me laisser aller. C'était une imagination qui ne faisait que nager superficiellement en mon âme, aussi tendre et aussi faible que tout le reste, mais à la vérité non seulement exempte de déplaisir, mais mêlée à cette douceur que sentent ceux qui se laissent glisser au sommeil.
Il me semblait que ma vie n'était plus retenue qu'au bout des lèvres.
Exactement.
Et ce qui est étonnant, évidemment, c'est que pour Rousseau, c'est une fusion stellaire. Hein, il se
tout
mélange aux éléments. Montaigne, tout simplement, reprend conscience. Hein. Et c'est donc l'expérience que Montaigne fait de la mort. Quel usage ?
La plus proche, si on peut dire.
Oui, voilà, la plus proche, oui, c'est ouais. Ça. C'est une expérience qu'on appelle une expérience limite. Cette expérience, Montaigne l'a-t-il faite avant ou après l'écriture du chapitre 20 du livre 1 des essais, que philosopher, c'est apprendre à mourir.
Mais écoutez, je pense... il dit que c'est pendant nos troisièmes troubles, ou deuxièmes, c'est-à-dire les épisodes des guerres de religion, il ne me souvient pas bien de cela. Mmh. Alors, allez chercher les dates précises. Pierre Villet, qui a fait cette monumentale édition des essais, qui est vraiment celle sur laquelle... Les gens qui travaillent sur Montaigne se sont appuyés pendant un siècle, évoquent la date de 1572 pour l'essai dont vous parlez, dont nous parlons, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et ça voudrait dire qu'une partie de l'essai...
Donc à mi-chemin de la rédaction des essais.
C'est ça, oui. Mi-chemin, quand même au début. Au début. Parce que pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, excusez-moi, je reviendrai tout à l'heure sur... Montaigne dit quand même, parce que vous posiez la question, peut-on se préparer à mourir ? Mmh. Et Montaigne dit, avec une ironie assez forte, il est certain que la plupart, la préparation de la mort a donné plus de tourments que n'a fait la souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle préparation à la mort est plus nocif que l'acceptation pure et simple.
Oui, alors c'était André Green, je crois, qui disait je crois plus à la mort dans la vie qu'à la vie après la mort.
Oui, tout à fait. Oui, mais ça ressemble beaucoup à ce que Montaigne écrit. Hein.
Alors il y a l'un des commentateurs de Montaigne, peut-être le plus léger d'entre eux, c'est Sacha Guitry. Je voudrais qu'on entende avec vous, Jean-Yves Pouilloux, Sacha Guitry parlant justement de la mort, de la façon finalement dont la mort fait partie de la vie et en un sens passionne nos attachements.
Nous attachons d'une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre. Nous admettons volontiers que c'est un dénouement, mais il n'apparaît pas que nous le préparions avec assez de soin. Et pourtant, nous savons fort bien qu'un dénouement n'est réussi que s'il s'accompagne ou d'un geste ou d'un mot destiné à frapper l'imagination de ceux qui le recueillent et qui vont le répandre. Un acteur ne sera jamais satisfait de quitter la scène s'il n'a pas la possibilité, du moins, de se faire applaudir en fermant derrière lui la porte. Et il suppliera l'auteur de lui donner un mot de sortie. Sinon, vous le voyez, l'œil inquiet, le front morose, ralentissant le mouvement et s'en allant finalement comme à regret. Dès lors, nous considérons comme un mot de sortie la dernière phrase que profère un moribond, quelque peu soucieux de conserver tout son prestige et de bien soigner sa légende. Voltaire, qui s'y connaissait à merveille, a dit un mot définitif à cet égard. Et résumant ainsi la chose, il déclara « Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée ».
Jean-Yves Pouilloux, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'est de Montaigne que nous parlons toute la semaine et c'est de mort que nous parlons aujourd'hui. Et pourquoi en parler tristement? Après tout, Sacha Guitry, après Montaigne et après d'autres d'ailleurs, savait l'art d'en parler avec une certaine forme de gaieté. Finalement, de considérer que la mort était l'occasion pour nous de vivre plus intensément, peut-être d'envisager l'existence sous l'angle de la qualité plus que sous l'angle de la quantité. Montaigne dit ceci, Jean-Yves Pouilloux, « Le vivre longtemps et le vivre peu de temps deviennent tout un par la mort. De sorte que ce qui compte véritablement, c'est la façon dont nous vivons. »
Jean-Yves Pouilloux. Oui, tout à fait. Enfin, si vous voulez, il y a deux choses, il me semble. La première chose, c'est que vivre longtemps a été considéré comme, pendant toute une tradition, comme un signe de bénédiction, en tout cas de protection du destin, et que les gens qui mouraient jeunes étaient considérés comme subissant une sorte d'injustice du sort. Mmh. Montaigne dit pas du tout. Les gens qui ont accompli des grandes choses, souvent les ont accomplies quand ils étaient jeunes, et Alexandre, et etc. Alexandre qui est mort à 30 ans, finit sa vie à 33 ans comme le Christ. Hein. Mmh. Autrement dit, une vie brève, comme chacun sait, et comme Achille le savait très bien, a autant de prix qu'une vie longue. Et Achille a choisi une vie brève et glorieuse plutôt qu'une vie longue et, disons, sans gloire.
Et Sénèque lui-même, dans le traité de la brièveté de la vie, explique si l'on retranche de la vie d'un centenaire tout le temps qu'il a perdu, oui, on s'aperçoit qu'il meurt prématurément.
Exactement. Exactement.
Montaigne écrit ceci, « L'utilité du vivre n'est pas dans l'espace de temps, elle est dans l'usage. Exactement. Tel a vécu longtemps qui a peu vécu. Donnez-lui toute votre attention pendant que vous en jouissez. Il dépend de votre volonté, non du nombre des ans, que vous ayez assez vécu. A-t-on jamais assez vécu, néanmoins ?
Mais il dit aussi qu'il n'y a pas un homme aussi décrépit, c'est-à-dire faible, tant qu'il voit Mathusalem devant, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas atteint l'âge de Mathusalem, qu'il ne pense avoir encore 20 ans de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de représentation. Là encore, c'est une fois de plus, Montaigne essaie d'analyser, de comprendre les représentations que nous nous formons de la vie, du cours de la vie.
Au fond, qui pense le plus à la mort ? Ou plus exactement, qui s'empoisonne l'existence le plus avec la pensée de la mort ? Est-ce que c'est celui qui, se divertissant, prétend l'oublier, ou en tout cas consacre finalement toute son activité à l'oubli de la mort ? Ou est-ce que c'est celui qui se la représente constamment, se la met en permanence sous les yeux ? Qui se gâche la vie ? Voilà.
C'est compliqué de répondre, parce que dans le chapitre que philosophie, c'est apprendre à mourir, Montaigne parle explicitement de se représenter la mort de façon constante, la plus fréquente possible. Mais en même temps, vous avez pu remarquer qu'il ajoute des phrases selon les relectures qu'il fait de ses propres écrits, ce qui est d'ailleurs une merveille, et il dit très explicitement « Je veux qu'on agisse et qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. Que la mort me prenne plantant mes choux, c'est-à-dire ne me souciant pas de la mort, puisque je ne peux rien contre la mort. »
En somme, pour ne pas me soucier de la mort, il faut que je l'ai constamment sous les yeux. Finalement, le paradoxe est celui-là.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et comme je sais que je ne peux pas penser... Enfin, la mort est quand même quelque chose d'étrange dans notre existence. C'est que c'est ce qui échappe à toute pensée qui relèverait de la vérification. Il n'y a aucune pensée sur la mort qui soit vérifiable. C'est-à-dire que toute pensée de la mort est par nature hypothétique. Et nécessairement hypothétique. Et en conséquence, se préparer à la mort d'une certaine façon, mais d'une manière différente de la préparation à la mort classique, c'est effectivement de faire les choses du quotidien, de faire les choses de tous les jours, planter ses choux, comme il dit.
Savoir, en tout cas, s'accommoder des choses du quotidien. On est donc là au cœur d'un paradoxe qui veut que aimer la vie implique de ne pas craindre la mort, par opposition finalement à ceux qui, redoutant qu'elle s'achève, iraient presque jusqu'à y mettre un terme. En somme, ceux qui préfèrent se tuer plutôt que de mourir.
C'est pas très simple la question du suicide. Comme vous savez, c'est tout à fait défendu dans la tradition chrétienne. Et Montaigne l'évoque à plusieurs reprises sans...
Que dit Montaigne du suicide ? Que dit le lecteur des stoïciens qu'il était du suicide ?
Il ne porte pas de condamnation. Enfin, il est très prudent, il fait bien attention à ne pas proposer le suicide comme une solution. Mais enfin, il ne condamne pas le suicide, à ma connaissance. Il a même plusieurs exemples historiques dans lesquels il l'admire. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a, même dans le chapitre que philosophie, c'est d'apprendre à mourir, il y a un exemple d'un prisonnier qui ne veut pas faire partie du cortège du triomphe de Paul Émile et qui demande la permission de ne pas participer au triomphe de Paul Émile. Et la réponse qui lui est faite, c'est « il ne tient qu'à toi ». C'est-à-dire « suicide-toi et tu ne participeras pas au triomphe ».
Se pose derrière là quand même la question de savoir si le suicide est affaire de liberté ou non, puisqu'après tout, et c'est de ça qu'on va parler maintenant, d'abord on va entendre Michel Piccoli lire un dernier texte à ce sujet, c'est peut-être le passage le plus fameux, sinon des essais, du moins en tout cas de ce chapitre, ça c'est certain, le moment où Montaigne explique que celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave, qu'en somme la méditation de la mort est aussi celle de la liberté. Sommes-nous libres à l'instant où nous nous suicidons ? C'est ce que disent les stoïciens, nous reprenons notre liberté, ou bien sommes-nous au contraire au sommet de l'assujettissement, de la servitude à l'instant où les circonstances portent notre bras à nous nuire à nous-mêmes. Voici le texte.
« Tiens, pour ton dernier jour, chaque jour qui luit pour toi, et tu béniras la faveur de l'heure inespérée. Il est incertain où la mort nous attende, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à être un esclave. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. »
Il n'y a rien de mal dans la vie pour celui qui a compris que la privation de la vie n'est pas un mal. Paul-Émile répondit à celui que le malheureux roi de Macédoine, son prisonnier, lui envoyait pour le prier de ne pas le mener à son triomphe, qu'il en fasse la requête à lui-même. Jean-Yves Pouilloux, aussi, la préméditation de la mort et préméditation de la liberté chez Montaigne, c'est bien que Montaigne ne se fait pas de la liberté la représentation qu'on en aura plus tard après Descartes, c'est-à-dire l'idée du libre-arbitre. La liberté ne peut pas être le libre-arbitre si savoir mourir, c'est conquérir sa liberté.
Ah, c'est compliqué votre histoire de libre-arbitre. Montaigne est très réticent sur ce point, il n'y a pas de doute, il est extraordinairement moderne, moderne au sens de quelqu'un qui aurait eu le pressentiment de ce que Freud, par exemple, allait découvrir beaucoup plus tard.
Vous parlez d'inconscient ?
Oui, mm-hmm. Tout à fait.
À quel égard, à quel titre ?
Montaigne dit explicitement que notre conduite est dictée par des raisons qui nous échappent à nous-mêmes, que beaucoup de mouvements de notre être se font sans notre connaissance et sans notre aveu. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est tout à fait explicite. C'est un passage tout à fait extraordinaire. Enfin, on va se moquer de moi si je dis que Montaigne a inventé l'inconscient, parce qu'il ne l'a pas inventé lui non plus. Mais il dit que l'être de chaque individu est agité par des replis internes, et des replis internes qui se dérobent à lui. Je n'ai guère de mouvement. Ces mouvements se dérobent. Donc il a une manière très étonnamment inventive et, je dirais, moderne de concevoir l'individu. Et je crois que ça a un lien avec la conception qu'il a de la liberté.
Est-ce que ça n'est pas tout simplement quelqu'un qui situe sa liberté dans l'acceptation, alors là, pour le coup, typiquement stoïcienne, de ce qui ne dépend pas de lui ? On a vu tout à l'heure, hein, Montaigne citant Cicéron, qui lui-même citait Socrate, enfin un certain Socrate, que la philosophie était préparation à la mort pour Socrate parce qu'elle apprenait à détacher l'âme du corps. Finalement, la vie tout entière est une préparation à la mort. Montaigne dit ceci : nous ne sentons aucune secousse quand la jeunesse meurt en nous, ce qui est en substance et en vérité une mort plus cruelle que n'est la mort complète d'une vie languissante et que n'est la mort de la vieillesse. Car le saut, dit-il, du mal-être au non-être n'est pas aussi grave qu'il l'est d'un état doux et florissant à un état pénible et douloureux. Est-ce que le fait de mourir tout au long de la vie et l'apprentissage de cette mort qui nous constitue et qui nous fait vivre, qui nous fait cheminer, n'est pas précisément ce qu'il entend par l'apprentissage de la liberté ?
Pas facile de vous répondre.
Répondez-moi par une question.
je ne pense pas que la liberté soit un terme que Montaigne utiliserait dans ce cas-là.
Le fait de vieillir, vous voulez dire ?
Oui. C'est quelque chose qui fait partie de du temps dans lequel nous sommes pris. Nous sommes prisonniers du temps dans lequel nous vivons. Et nous ne pouvons pas, en fait, à part violence contre soi-même, nous ne pouvons pas nous exempter de ce temps.
Vous diriez que Montaigne se vit comme prisonnier du temps ?
Prisonnier, oui, d'une certaine façon, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas le moyen de... L'idée que nous nous formons de nous-mêmes est une idée qui figure un sujet hors temps, dans la plupart des cas. Et pour Montaigne, la prise dans le temps, moi à cette heure et moi tantôt, comme je citais tout à l'heure, ou encore dans c'est un chapitre extraordinaire qui est un des chapitres les plus réfléchis, je crois, de Montaigne, abstraitement réfléchis, je dirais, qui est le début du chapitre du repentir. Il dit la constance même n'est autre chose qu'un branle, c'est-à-dire un mouvement
plus languissant.
Plus languissant, oui. Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Je ne peins pas l'être, je peins le passage, non un passage d'âge en autre, ou comme on dit de 7 ans en 7 ans, mais de minute en minute.
Le chapitre auquel vous faites référence, hein, je le dis pour l'auditeur, hein, c'est le chapitre 2 du livre 3.
Hein, c'est ça, le repentir.
Sur le repentir. Montaigne dit également, comme notre naissance nous apporte la naissance de toute chose, notre mort aussi apportera la mort de toute chose.
Tout à fait.
C'est pourquoi c'est une pareille folie de pleurer parce que nous ne vivrons pas dans 100 ans d'ici, comme de pleurer parce que nous ne vivions pas il y a 100 ans. En somme, Montaigne distingue le fait de mourir du fait de ne pas exister, ou il les rapproche plus exactement.
Il les rapproche tout à fait. Soit dit en passant, c'est une citation l'humiliation de Lucrèce. Là encore, c'est une reprise de la fin du livre 3 du De Natura Rerum, de la nature des choses, que Montaigne paraphrase dans toute la fin de ce chapitre sur que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et si on essaie de comprendre l'une des raisons pour lesquelles Montaigne recourt à ce texte de Lucrèce, c'est que Lucrèce fait parler la nature, ce qui est quand même exorbitant, de donner à la nature un discours pour parler aux hommes de quoi ? Non pas pour les consoler de devoir mourir un jour, mais pour leur montrer que les idées qu'ils se forment sur la mort sont des idées qui sont façonnées par des craintes imaginaires.
Et puis aussi parce que la nature accomplit son destin sans se plaindre. Hein. Il cite, Montaigne cite à un moment, justement Lucrèce, hein, car jamais la nuit n'a succédé au jour ni l'aurore à la nuit, sans entendre, mêlé au vagissement de l'enfant, les cris de douleur qui accompagnent la mort et les noires funérailles. Finalement, tout ça, c'est la même affaire. Il se sert de Lucrèce pour montrer ou pour... C'est presque brandir la nature en exemple.
Ah, c'est tout à fait... Enfin... Je crois qu'il y a une part assez sérieuse d'ironie en même temps, hein, qu'on aurait tort de ne pas entendre. Montaigne se moque des autres et se moque, je crois, aussi de lui-même. Hein, parce que ça n'est pas si simple que ça d'écouter ce que la nature nous dit par la voix de Lucrèce. « Sortez, dit-elle, de ce monde comme vous y êtes entré. » C'est pas si simple que ça de sortir de ce monde comme on y est entré. C'est pas si simple d'abandonner ce qui constitue l'image qu'on se fait de soi-même.
En sorte qu'apprendre à mourir, c'est tout simplement s'oublier soi-même.
Ou au contraire, se reconnaître pour ce qu'on est.
C'est une autre façon de faire. Un grand merci, Jean-Yves Pouilly.
Je vous en prie.
Danse macabre de Liszt pour clore cette émission sur Montaigne avec vous, Jean-Yves Pouilloux. Renvoie l'auditeur aux quelques chapitres que nous avons cités dans cette émission. Chapitre 19 et 20 du livre 1, chapitre 6 du livre 2, le fameux chapitre sur la chute à cheval, le chapitre 12 du livre 3 sur la physionomie avec lequel nous avons commencé cette émission. De vous, Jean-Yves Pouilloux, je signale également le Découverte Gallimard, excellent Découverte Gallimard, comme souvent d'ailleurs les Découvertes Gallimard. Et je voudrais également vanter les mérites, hein, ce qu'on fera toute la semaine, de la traduction en français moderne des Essais de Montaigne par André Lanly. Hein, achetez, picorez, offrez ce texte et n'écoutez surtout pas les fétichistes qui crient au blasphème ou les puristes qui s'indignent que Montaigne existe désormais en français moderne. C'est limpide, c'est fidèle et c'est facile à lire. On est accompagné aujourd'hui par Michel Piccoli. Alors Michel Piccoli, ce sont les Essais de Montaigne, lus. Les disques se trouvent chez Frémaux. Suite demain d'une semaine sur Montaigne dans les nouveaux chemins de la connaissance, je recevrai Ali Ben Maclouf qui viendra vous parler des cannibales, l'essai sur les cannibales. Un grand merci au service technique de la station France Bleu Béarn à Pau, grâce à qui ce duplex a eu lieu. À la technique aujourd'hui, Jacques Vincent. À la réalisation, Cédric Aussire. Assistant de collaboration, Geneviève Méric, Adèle Vanrette, Jennifer Murzo et Florence Malfatto. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.